Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre confiance. Appelez-nous, exprimez-vous et profitez-en. Nous sommes vendredi, c'est l'occasion pour vous tous de commenter l'actualité de votre choix. L'Alimentaine, effectivement, dès 8h40, temps universel. Et ce matin, au standard, comme sur nos réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp, vous êtes plusieurs à nous interpeller après l'adoption au Royaume-Uni d'une loi qui autorise d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile entrés illégalement sur le territoire britannique. On nous appelle également de Côte d'Ivoire, où les cultivateurs de cacao affirment ne pas bénéficier de la flambée des cours sur le marché international. Des réactions également sur la guerre Israël-Hamas, sur les récentes tensions au nord du Congo-Brazzaville, où des magasins appartenant à des Camerounais ont été pris pour cible. Et je vois encore ce matin que plusieurs d'entre vous nous appellent de Centrafrique après ce drame, ce naufrage d'une péniche, plusieurs dizaines de morts, le pays est sous le choc. Vous continuez évidemment à nous rejoindre. 33 9 693 693 70. Mais vous le savez, d'abord, on commence comme tous les matins cette émission avec vos questions à la rédaction de RFI. Fousseni nous a envoyé justement des questions sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. On l'a donc rappelé. Bonjour Fousseni.
Bonjour Juan.
À Bamako, au Mali, merci de nous suivre sur place. Et vous avez des questions sur la coopération militaire entre le Tchad et les États-Unis.
Oui, oui. Sur les réseaux sociaux, un courrier du chef d'état-major de l'armée tchadienne demande aux États-Unis d'arrêter les activités sur la base de Kossey. Mmh. Ma question est de savoir, la coopération entre le Tchad et les États-Unis est-elle remise en question? Quel rôle?
Oui.
Quel est le rôle des soldats américains dans les pays?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette lettre signée du chef d'état-major de l'armée de l'air. Hein. Vous avez dit de l'armée, mais c'est de l'armée de l'air tchadienne. Lettre adressée à l'attaché de défense de l'ambassade américaine à N'Djamena. On va essayer de comprendre, évidemment, cette affaire avec Carole Valade, correspondant de RFI sur place. Bonjour Carole.
Bonjour Juan, bonjour Fousseni.
On a d'un côté donc les forces américaines qui préparent leur départ du Niger. Les États-Unis sont-ils également sous pression au Tchad?
Eh bien écoutez, on vient d'avoir quelques éléments nouveaux là, cette nuit dans un article du journal américain le New York Times qui affirme qu'environ 75 membres des forces spéciales devraient quitter N'Djamena dès ce week-end, 75 donc sur la centaine de soldats à peu près présents au Tchad. Et selon cet article, toujours, ils appartiendraient donc au 20e groupe des forces spéciales, une unité de la garde nationale. Mais on sait finalement que peu de choses sur leur mission. Hein. Selon une source au département d'État américain, cela fait, je cite, « des années que les forces américaines au Tchad soutiennent des opérations de contre-terrorisme contre l'extrémisme violent au Sahel et dans la région du lac Tchad ». Fin de citation. Alors c'est assez flou, j'en conviens, mais elle n'en dira pas plus, signe peut-être que cette affaire eh bien, suscite un certain malaise dans l'administration américaine.
Oui, malaise qui peut se comprendre finalement au regard du contexte actuel, puisque l'affaire est sortie, et je le disais en préambule, le jour même où Washington a officialisé le retrait d'un millier de soldats stationnés sur la base d'Agadez à la demande du Niger.
Absolument, hein, puisque les États-Unis, souvenez-vous, avaient tenté vraiment jusqu'au bout, hein, pendant les 4 mois qui ont suivi le retrait des Français, de renégocier un accord avec Niamey. Niamey qui, dans le même temps, a préféré se tourner vers Moscou et vers Téhéran. Alors, dans ce contexte où il y a cette influence russe qui gagne du terrain au Sahel, on le sait, la fuite de cette lettre dont vous avez déjà parlé, Fousseni, elle a tout de suite enflammé les réseaux sociaux. Ici, des internautes peu scrupuleux ont très vite, trop vite, annoncé même l'expulsion des Américains qui précéderait celle des Français, même l'arrivée des Russes. Mais en réalité, on n'en est pas du tout là, en tout cas pas encore là, du moins pour l'instant.
Ouais, on n'en est pas du tout là, mais tout de même, selon la chaîne américaine CNN, N'Djamena aurait menacé d'annuler le statut des forces. C'est ce texte qui régit la présence de soldats américains sur le sol tchadien. Est-ce que ça signifie finalement, Carole Valade, que la coopération militaire entre le Tchad et les États-Unis est remise en question?
Alors, si on s'en tient aux communications officielles, non. Hein. Ce retrait, il ne serait que temporaire, le temps de trouver un accord entre les deux parties, qui d'ailleurs minimise l'incident. Hein. Le ministre porte-parole du gouvernement, Abderrahman Koulamallah, dit, lui, qu'en aucun cas le Tchad ne chasse les Américains, que cette lettre, ce n'était qu'une demande de clarification, et que l'incident serait en passe d'être résolu. Et c'est le même son de cloche hein, qu'on entend du côté des Américains. Le Tchad ne nous a pas demandé de partir, indique ma source au département d'État. Des discussions sont en cours, poursuit-elle, et nous sommes donc mis d'accord pour faire le point sur notre coopération militaire une fois passée l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Fin de citation.
Ouais, est-ce qu'on en sait un peu plus tout de même, Carole Valade, en quelques mots, de l'incident qui a déclenché cette escalade diplomatique entre Washington, N'Djamena?
Ouais, là, pas encore. Hein. On peut simplement supposer, parce que l'affaire concerne donc la base aérienne de Kosseï, où il y a également les forces françaises au Sahel, qu'il y a peut-être eu un mouvement de troupes, un exercice non déclaré qui a pu susciter la colère de N'Djamena, mais ça reste une hypothèse. En tout cas, si les plus alarmistes sont empressés d'annoncer un basculement d'alliance, encore peu probable à ce stade, la plupart des observateurs que j'ai pu interroger, ils voient plutôt un moyen pour N'Djamena de faire monter les enchères, dans l'espoir d'obtenir des conditions d'accord plus favorables à l'état tchadien. Et l'annonce de ce matin du retrait des troupes par les Américains pourrait dès lors être une sorte en fait, de réponse dans ce qui ressemble de plus en plus à un bras de fer.
Affaire à suivre et on y reviendra très certainement tout à l'heure dans Afrique Midi à 12h30, temps universel. Fousseni, a-t-on répondu à vos questions?
Oui.
Oui, bon d'accord. Bonne journée à Bamako alors.
Merci alors.
Merci à vous, merci de votre confiance. Carole Valade, à très vite sur RFI et vos explications sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. On va parler football maintenant, des questions sur le Barça. Qu'avons-nous? C'est Alex qui nous rejoint, bonjour.
Oui Juan, bonjour.
Soyez le bienvenu et merci de nous écouter dans la capitale centrafricaine. Quelles sont vos questions?
Merci de m'accueillir aussi dans la capitale française.
C'est normal.
Xavi a créé la surprise en annonçant qu'il restait sur le banc du Barça jusqu'en 2025. Comment expliquer ce revirement de la part de l'entraîneur de Bilbao?
Quel coup de théâtre.
Que peut-il apporter de nouveau pour l'année prochaine après une saison ratée?
Bon, et Antoine Grenier va essayer de nous éclairer davantage. Bonjour Antoine.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Journaliste au service des sports de RFI. Qui s'attendait à ce que Xavi reste finalement au Barça? J'ai encore en mémoire ses propos fin janvier. Je fais mes valises à la fin de la saison.
Oui, peut-être même pas lui. Il s'attendait certainement pas à rester. En fait, quand Xavi a annoncé son départ, vous le disiez, c'était fin janvier, c'était à un moment où il y avait une énorme crise de résultats et de performance. Son départ, il l'avait acté après une défaite 5-3 qui avait été lourde, qu'il avait assez mal supporté. Il avait expliqué que son cycle à la tête de l'équipe était terminé, qu'il fallait un nouveau départ finalement. Et c'est intéressant, il a changé d'avis au terme d'une semaine qui ressemblait à peu près à ça, avec une élimination en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain et une défaite dans le Classico contre le Real Madrid. Mais en fait, là, si les résultats n'étaient pas là, les performances, elles étaient un petit peu plus encourageantes. Les joueurs, notamment les jeunes dans le vestiaire, veulent que Xavi reste. Ce qui a emporté la décision, visiblement, ça serait le manque de solutions en interne pour le remplacer, parce que Xavi, il ne fait pas forcément l'unanimité dans les bureaux et auprès des supporters du Barça, mais et son président également le voit comme la moins mauvaise solution dans un moment compliqué pour le Barça.
Donc il reste par défaut.
En fait, il reste alors parce qu'il aime ce club.
Ah oui, forcément, ça, il y a joué.
C'est incontestable, il y a joué, il y a tout gagné là-bas. Il a gagné un titre de champion d'Espagne en le dirigeant, ce club-là. Donc il y a une affection très, très forte entre lui et le Barça. Mais finalement, il n'y avait pas vraiment de solution de remplacement. Rafa Márquez, qui est l'entraîneur, lui aussi ancien joueur du Barça, et qui est entraîneur de la réserve, paraissait trop inexpérimenté à ce moment-là. Donc Xavi a peut-être dans l'idée de lui laisser encore un petit peu de temps pour se préparer à diriger une équipe comme le Barça pour lui faire avoir des résultats.
Et disons aussi les choses clairement, le Barça a besoin de faire des économies, donc c'est peut-être pas le moment de changer d'entraîneur aussi.
Oui, et c'est compliqué de recruter un entraîneur. On a évoqué la piste Hansi Flick, l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, mais ce sont des pistes comme Thomas Tuchel ou d'autres qui sont très chères. Xavi, lui, il a l'avantage d'être déjà là, donc il n'a pas besoin d'une prime à la signature ou autre chose.
Alors, Alex nous demande concrètement que peut faire de plus et de mieux Xavi la saison prochaine. Rappelons que c'est quand même une saison blanche en ce moment pour le Barça.
Ça sera une saison blanche, ça c'est une
certitude. Laquelle, la prochaine ?
Celle-là.
Ah bon,
déjà celle-là.
Rassuré.
La suivante, en fait, l'idée de Xavi, en apportant cette stabilité-là, c'est de faire grandir encore un petit peu les pépites qui viennent de la Masia, du centre de formation. Donc il y a Lamine Yamal, il y a Pau Koubarsi, mais qui ont 16 et 17 ans. Pedri et Gabi, qui sont un petit peu plus vieux, vont arriver à maturité. Donc il peut avoir des résultats avec ces joueurs-là la saison prochaine. En tout cas, c'est ce que lui espère. Tous les éléments mis bout à bout laissent à penser que la saison prochaine sera peut-être plus réussie. Le Barça a quand même remporté un titre de champion d'Espagne l'année dernière. Donc Xavi, il sait entraîner. Et puis il aura l'occasion, lui aussi, de progresser, parce que son expulsion contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions a montré qu'il pouvait aussi plomber son équipe quand il faisait comme ça des gestes inappropriés. Ça a précipité aux yeux de beaucoup l'élimination du Barça en Ligue des Champions, ce geste-là et cette expulsion. Mais le 3-2 obtenu au Parc, au match aller, avait montré qu'il y avait dans cette équipe quelque chose qui pouvait permettre d'aller chercher des résultats la saison prochaine.
On suivra ça. Alex, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Le fait que Xavi reste au Barça ?
Non, moi, c'est pas une bonne nouvelle. Moi, je suis madrien, j'aurais prévu que Xavi parte, puisqu'un autre grand connaître vient pour se faire humilier.
Oui. Les supporters du Real ont demandé à Xavi de rester, parce que depuis qu'il est à la tête du Real, il perd à chaque fois.
Effectivement. Et on l'a encore vu dimanche dernier. Bon, Alex, bonne journée à Bangui. Merci à vous. À très vite, Antoine Grenier.
À très vite,
Antoine. Journaliste au service des sports de RFI. Il est 10h21. Vous nous rejoignez. Soyez les bienvenus. Nous sommes vendredi. N'oubliez pas, dans 20 minutes, la libre antenne. C'est à vous de commenter l'actualité. C'est à vous de choisir les sujets qui vous interpellent le plus. Ce sont vos coups de cœur ou vos coups de gueule de l'actualité de la semaine. Pauline Glaise nous rejoint, journaliste au service environnement de RFI. Bonjour Pauline.
Bonjour Juan.
On a reçu des questions sur le TCE, le traité sur la charte de l'énergie. Ali, soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à l'équipe de l'appel et de l'actualité.
Et merci de nous appeler de Rosso, en Mauritanie. On vous écoute avec Pauline Glaise.
Ok, bon, Juan, à travers RFI, j'ai appris à travers RFI que l'Union européenne s'est retirée du traité de charte de l'énergie pour lutter contre le réchauffement climatique. À ce propos, j'aimerais savoir pourquoi les pays européens sont retirés de ce traité et quel en sera l'impact.
Alors, ça faisait des années que des organisations de défense de l'environnement réclamaient justement le retrait de l'Union européenne de ce traité. Pauline Glaise, disons-le clairement, c'est un traité qui est très peu connu du grand public. On va peut-être d'abord expliquer, nous, de quoi il retourne.
Alors, effectivement, ce traité qui est peu connu, il a été conclu après la chute de l'URSS en 1994. Et son objectif, c'était de faciliter les échanges énergétiques. En gros, c'est une garantie pour les entreprises du secteur en cas de revirement de politique dans un pays signataire où ils ont des activités et s'ils estiment que cela est préjudiciable à leurs intérêts, ils peuvent demander réparation. C'est donc un moyen d'encourager les investissements car ils prenaient moins de risques. Et pour les États, c'était aussi un moyen de protéger leurs entreprises.
Et pourquoi les pays européens veulent-ils en sortir ?
Eh bien parce que depuis, les priorités, elles ont changé. Le traité s'est retourné contre les États. Via cet accord, les différends peuvent être réglés certes par la voie diplomatique, mais ça permet surtout aux investisseurs de lancer des procédures contre les pays où ils ont des activités. Et ils le font devant ce qu'on appelle des tribunaux d'arbitrage. C'est donc pas devant la justice de chaque État que sont traitées ces affaires. Et ces tribunaux, ils étudient si oui ou non le traité est respecté. Ils n'étudient pas, ils prennent pas forcément en compte la nécessité d'opérer une transition énergétique. Et même si ce n'est pas assez rapide, des mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique par les États vont parfois, voire même souvent, à l'encontre des intérêts des acteurs énergétiques fossiles, d'où des requêtes qui se sont multipliées. Je pense notamment à un énergéticien allemand qui a réclamé pas loin d'1,5 milliard d'euros aux Pays-Bas pour compenser les pertes liées à une régulation anti-charbon. Ils ont entre-temps renoncé.
Ouais, donc la facture peut être salée.
Elle peut se chiffrer en millions, voire au total en milliards d'euros. L'Italie, par exemple, a été condamnée en 2022 à payer 200 millions d'euros à une compagnie pétrolière. Et ça, c'était parce qu'elle avait refusé un forage offshore.
Et est-ce que ce traité entravait la transition ?
Oui, alors en fait, plusieurs instances sont parvenues à cette conclusion. Ce n'est pas juste des organisations environnementales qui sont arrivées à cette conclusion-là. Le Haut Conseil pour le climat en France l'a rappelé. Alors l'Union européenne a essayé de négocier le traité, mais même dans sa forme modernisée, en fait, l'AIE a conclu qu'il n'était pas compatible avec le rythme de décarbonation qu'il faut, puisqu'il faut un rythme de décarbonation assez rapide.
En quelques mots, Pauline, anglaise, Ali nous demandait quelles peuvent être les conséquences du retrait de ce traité.
Alors, il y a des mais, c'est pas la panacée. Oui. Déjà, il faut encore que le texte arrive au bout de son parcours législatif. Il y a un dernier tampon du Conseil européen à donner. Il y aura un préavis d'un an avant de sortir effectivement. Et puis surtout, il y a ce qu'on appelle une clause de survie de 20 ans. Alors, une clause de survie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, tous les investissements qui sont déjà pris sont protégés pendant encore 20 ans. Donc, les nouveaux ne le seront plus, mais ça fait encore quand même beaucoup d'investissements qui sont protégés. Il y a des moyens de le contourner. Les États sont en train d'étudier, de travailler sur un texte pour préciser que ce traité n'a jamais eu vocation à s'appliquer entre États européens. Et il y a quand même beaucoup de recours entre États européens. Donc ça limiterait un petit peu cette clause.
Bon, on va suivre tout ça. C'est un peu technique, mais c'est intéressant. Et on a appris des choses grâce à vous, Pauline Glaise, et surtout grâce aux questions d'Ali. Vous êtes satisfait? On a répondu correctement?
Ok, c'est parfait. Et surtout, je vous dis merci de m'avoir donné la chance de passer dans l'antenne. Je vous souhaite une bonne journée.
Nous aussi, on vous souhaite une bonne journée à Rosso et on salue tous ceux qui nous écoutent en Mauritanie. À bientôt, Pauline Glaise. Il nous reste 3 minutes. Ce sera la dernière question de la semaine. Serge, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan Gomez.
Bonjour, monsieur Serge. Vous êtes à Abidjan. Vous avez des questions sur TikTok. TikTok est dans le collimateur de la Commission européenne.
Exactement. Alors, TikTok a finalement suspendu une nouvelle fonctionnalité sur son application à la demande de la Commission européenne. Oui. J'ai donc 2 questions à ce sujet. Comment expliquer le recul de TikTok?
Oui.
Et en quoi cette nouvelle fonctionnalité posait un problème?
Alors, on va déjà commencer par la deuxième, je pense, qui est intéressante et nous permettra de comprendre ensuite pourquoi TikTok a effectivement décidé de suspendre cette fameuse fonction tant controversée. Bonjour Ophélie Coelho.
Bonjour.
Chercheuse indépendante en géopolitique du numérique, quel était le problème? Et quel est le problème, ne parlons pas au passé, avec TikTok Lite?
Alors TikTok Lite, c'est une application qui est sortie déjà l'année dernière en Corée du Sud et au Japon et qui était sortie tout récemment en Europe. Et en fait, c'est une application plus légère qui permet en fait d'utiliser TikTok sur des téléphones qui ont moins de performance que les tout derniers modèles ou sur lesquels on ne va pas dépenser trop d'argent, on va dire. Et donc, il y avait dans cette version de TikTok une fonctionnalité de rémunération, c'est-à-dire en gros que en échange du temps passé sur l'application, plus vous regardez de vidéos, plus vous allez débloquer des chèques cadeaux que vous pouvez utiliser ensuite sur PayPal ou Amazon, par exemple. Voilà. C'est une fonctionnalité qui fonctionne toujours d'ailleurs au Japon et en Corée du Sud.
Et en Espagne encore ou pas? Parce que je sais qu'elle existe également en Espagne, elle est en fonctionnement depuis la fin du mois de mars. La Commission européenne a estimé justement que ce mécanisme posait, je cite, des risques graves pour la santé mentale des utilisateurs.
Alors, on peut tout à fait comprendre cela parce qu'en effet, le problème du temps d'écran se pose énormément, notamment pour les jeunes. Et c'est vrai que ce type de fonctionnalité peut pousser à passer énormément de temps sur les plateformes. C'est déjà beaucoup le cas. On passe déjà beaucoup de temps sur les écrans. Donc, si en plus de ça, si en échange du temps de visionnage, on vous permet d'avoir une rémunération en quelque sorte sous forme de bon d'achat, c'est évident que ça peut s'accompagner de phénomènes d'addiction.
L'idée, c'est de préserver essentiellement les mineurs, les adolescents, les 8-9 ans qui passent évidemment, certains diront malheureusement, trop de temps devant les écrans et devant TikTok. Pourquoi TikTok a décidé de suspendre cette fonctionnalité?
Alors, on peut faire l'hypothèse que le test de TikTok Lite en Europe, c'était vraiment un test de marché. C'est-à-dire qu'il y avait certainement cette hypothèse derrière que l'Europe allait plutôt voir rouge là-dessus et demander à l'interdire. Donc, je pense que c'était un test de marché. Sachant que l'objectif final de TikTok Lite, à mon avis, n'était de toute façon pas l'Europe. On a affaire à une application légère qui est censée fonctionner sur des téléphones qui ont moins de connexions qu'en Europe ou aux États-Unis. Donc, on peut quand même imaginer que l'objectif final sera plutôt de développer ce type d'usage sur le continent africain.
À suivre. Merci Ophélie Coelho d'avoir été avec nous, chercheuse indépendante en géopolitique du numérique. Serge, je vous souhaite une bonne journée à Abidjan et merci d'avoir été avec nous.